On fait un point sur la météo dans quelques secondes avec Rémi André quand il sera revenu de Saint-Gaudens.
Le temps est encore instable aujourd'hui, même si ça s'arrange un peu par l'ouest dans la soirée. Dans l'est du pays, des averses et giboulées restent au programme avec de la neige sur les Alpes et le Jura. Du centre au bassin parisien et de la Normandie au Hauts-de-France, le ciel est partagé entre nuages et éclaircies, éclaircies plus belles dans l'après-midi. Des Pays de la Loire au sud-ouest, en passant par l'Auvergne et le Rouergue, le temps est encore instable avec quelques averses, mais les éclaircies sont belles entre les averses. Enfin, du golfe du Lion à la Provence et la Côte d'Azur, le soleil domine à nouveau, mais avec du vent soufflant jusqu'à 100 km/h. Quant aux températures, elles se rafraîchissent de 8 à 14 degrés et encore 18 degrés du côté de Cannes. A partir de demain et jusqu'au week-end, retour des conditions plus anticycloniques, temps sec mais plus frais, gel matinal fréquent, puis soleil et douceur les après-midi.
Mais soleil et douceur, c'est merveilleux tout ça. Merci à vous Rémi André.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, midi 13h, André Berkoff.
Alors ce n'est plus une révolte, sire, c'est une révolution. Oh non, non, peut-être pas une révolution. On n'en sait rien. Personne ne sait rien. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que tout le monde prétend organiser, contrôler, diriger, avoir le cap. Mais depuis ce samedi, on ne sait plus qui fait quoi, qui dirige quoi. On va essayer d'ailleurs de décrypter tout ça, parce qu'on est dans tous nos états, mais surtout, on est lucide, et en tout cas, on essaye de l'être.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Alors, piste de danse ou piste de ski? Castaner ou Macron? Où sont nos gouvernants? Ils sont là, ne vous inquiétez pas. Ils vont prendre, d'ailleurs, aujourd'hui même, les mesures qui s'imposent. Cela fait 4 mois que ça dure. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et n'oubliez jamais ce que disait Charlton Heston. Il y a du soleil sur la France et tout le reste n'a pas d'importance. Ah bon?
Berkoff dans tous ses états. Le fait du jour.
Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie. À midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez.
Il y a effectivement tout ce que vous voulez. Joe Dassin était déjà un visionnaire, absolument.
Et vous auriez
tout
pu
ce
aussi,
que vous voulez.
Et vous auriez pu aussi choisir la musique des Bronzés Fonds du Ski pour le coup.
Je sais, mais c'était les Champs-Élysées étaient quand même. C'était c'était d'ailleurs le premier choix de Céline, effectivement, mais je trouvais que les Champs-Élysées c'était tellement beau, magnifique. Et effectivement, on fait ce qu'on veut aux Champs-Élysées, le Fouquet, on brûle le Fouquet, quelques boutiques à côté, etc. Et ça fait évidemment la polémique la plus totale et la plus justifiée. Alors on va essayer, auditeurs de Sud Radio, d'aller peut-être un peu plus loin et d'essayer de voir, sans prendre parti, l'état des forces en présence. D'abord, il faut quand même dire que depuis pratiquement 4 mois, on sait très bien qu'il y ait des casseurs et des pillards infiltrés par les gilets jaunes, c'est évident. Mais il y a aussi des gens qui sont des ultra-gauches, anarchistes, il y a des extrêmes droites aussi, mais il y a des black blocs, certains antifas qui disent, mais ils sont très sincèrement, eux ils sont cohérents, ils disent nous devons détruire le capitalisme et tout ce qui représente le capitalisme, et pour eux, c'est peut-être pas les banques, mais c'est le Fouquet, enfin, chacun ses choix ou ses dérives, donc on y va. Or, c'est pillards, ces casseurs qui ne s'habillent pas comme les gilets jaunes, et on l'a encore vu samedi, eh ben ils sont là, ils passent. Moi je vais vous dire, j'étais samedi sur les Champs-Élysées et j'ai vu un black bloc, en tout cas quelqu'un en noir, je ne peux pas dire si c'était un black bloc, il n'y a pas d'étiquette, avec une meulière, absolument. J'ai vu, de mes yeux vus, quelqu'un avec une meulière. Comment on arrive, alors qu'aujourd'hui les lunettes de ski, les foulards, etc. sont interdits, rentrer aux Champs-Élysées avec une meulière? Je pose la question, hein, je ne sais pas. Deuxièmement, on dit, et ça ce sont les CRS, hein, il y a eu 2 déclarations tout à fait, passionnante. L'une qui a été faite par le secrétaire général des CRS à l'UNSA Police, donc un syndicaliste. Et qu'est-ce qu'il a dit à France Info? Mauvaise gestion des priorités. C'est flagrant à partir du moment où on n'anticipe pas un dispositif qui a été annoncé à risque avec aucun contrôle en amont. C'est quand même formidable. Et il ajoute, c'est quand même énorme d'avoir environ 1000 fonctionnaires de police spécialisés dans le maintien de l'ordre cantonnés. Alors vous allez me dire cantonnés, mais où? Eh bien, il faut que vous sachiez que samedi, 12 compagnies de CRS étaient cantonnées et cloisonnées pour sanctuariser l'Élysée. Et on a laissé les débordements se faire selon l'UNSA Police. Encore une fois, je cite un syndicat de police. Alors ça, ça devient quand même très intéressant. Donc, 12 compagnies de CRS cantonnées pendant que ça bagarre, que ça brûle, que ça caillasse, que ça pille à quelques mètres, eh bien non. Pourquoi ? Pour protéger le président de la République. Mais, auditeurs de Sud Radio et tout le monde le sait, le président et la First Lady, comme dit Brigitte, étaient à la Mongie en train de faire du ski. Alors, moi, je ne participe pas de... Tu dis, mais comment ? Un ministre de l'Intérieur n'a pas le droit de siffler des shots de vodka en boîte et un président de la République n'a pas le droit de faire du ski. Le problème n'est pas là. C'est effectivement l'anticipation. Alors, pourquoi 12 compagnies de CRS cantonnées alors qu'il est au ski ? Franchement, il n'y a pas besoin d'être protégé. Là.
C'était peut-être pour protéger les lieux du pouvoir.
Bien sûr.
Imaginez qu'on saccage l'Élysée.
Bien sûr. Écoutez, c'est comme on saccage le Fouquet.
J'ai dit imaginez.
Oui, imaginez. Vous avez raison. Restons dans le domaine de l'imagination. Mais enfin, il y a quand même un problème, là. Et puis, on voudrait savoir comment 80 000 policiers et gendarmes ne peuvent pas empêcher 1 000 casseurs, 1 500 casseurs connus. On l'a dit. Or, Christophe Castaner, qui niait la chose pendant des semaines, dit aujourd'hui, oui, il y a des pillards et des forces organisées qui veulent effectivement être là uniquement pour casser. Ah, ben c'est bien, on le reconnaît. Alors, franchement, tout ça, il y a quelque chose qui est frappant, qui est flagrant dans toute cette histoire, qui est même beaucoup plus grave, c'est effectivement cet amateurisme. Un journaliste du Figaro a recueilli les confidences d'un CRS, toujours samedi, et le CRS, voilà ce qu'il disait. C'est pas croyable, on dirait qu'on les laisse faire. C'est quoi l'objectif ? Voilà, c'est quoi l'objectif ? Eh bien, je vais vous dire, il n'y a pas que les CRS qui se demandent c'est quoi l'objectif. C'est quoi ? Est-ce qu'on veut laisser sciemment s'installer un certain chaos pour dire, regardez, nous sommes les gardiens de l'ordre, et faire que, voilà, tous les gilets jaunes, en fait, vous voyez, c'est devenu des casseurs, c'était très bien au début, c'est tout ce qu'on dit toujours, c'était très bien au début, mais maintenant, c'est devenu n'importe quoi. Je veux bien, mais si c'est devenu n'importe quoi, ça fait des semaines que l'on dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, rien. Rien, rien. Alors, à des moments, quand même, il y a... Alors, aujourd'hui, effectivement, on est arrivé à dire, oui, il y a eu des dysfonctionnements. Hein, tout le monde l'a dit, Macron l'a dit, Castaner l'a dit, Laurent Nunez l'a dit, le secrétaire d'État. Mais écoutez, ça fait 4 mois que ça dure et vous constatez qu'il y a des dysfonctionnements. Là encore, qu'est-ce que ça veut dire ? Quels sont le vrai nombre des gilets jaunes ? Personne ne sait. Le ministère de l'Intérieur dit 30 000. Le numéro jaune, le nombre jaune dit 100 000 ou encore un peu plus. Si vous voulez, ce qui est quand même très angoissant dans cette histoire, quelle que soit l'opinion que l'on a de tout cela. D'abord, il y a une véritable insatisfaction, il y a un véritable problème, mais surtout, où est le cap ? Où est la direction ? Si on décide d'interdire, on interdit. Si on décide de frapper, on frappe. Mais qu'est-ce que c'est que... On ne sait pas, on ne sait rien. Anne Hidalgo dit toujours, évidemment, que ce sont des groupuscules d'extrême droite qui, évidemment, qui ont cassé. Elle est magnifique.
C'est ce qu'elle a affirmé. Elle a affirmé avoir vu, effectivement, des groupuscules d'extrême droite.
Oui, j'adore. Alors qu'on a vu les affiches avec le A de anarchiste, on a vu des drapeaux algériens et palestiniens. À part ça, ce sont l'extrême droite. Mais vous savez, hein, quand on est... croyant, quand on est effectivement plus que pratiquant, dans une certaine idéologie, surtout ne pas bouger. Et puis alors, je voudrais quand même que vous écoutiez ceci. C'est une gilet jaune, enfin une porte-parole des gilets jaunes, il y en a beaucoup. Elle passait sur LCI hier. Elle s'appelle Sophie Tissier et elle a parlé et on commentera après, mais je voudrais que vous écoutiez ce qu'elle a dit, Sophie Tissier, au micro de LCI hier.
C'est révoltant ce pays, c'est révoltant la situation. Vous êtes en train de passer en boucle des vitrines cassées. Qu'est-ce qu'on en a à faire que le Fouquet s'est cramé ? Franchement, arrêtez avec ça. C'est scandaleux, la façon dont vous traitez cet événement, c'est scandaleux. Moi je pense à tous les morts, les 15 000 morts par an, à cause du chômage et de la précarité. C'est ça la réalité. Moi vous me donnez envie de chialer. Vous vous rendez compte ? Monsieur Macron est un irresponsable, monsieur Macron est un incompétent. Il mérite la prison, il est en train de vendre ADP, il est en train de liquider le pays. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité, bon sang. Arrêtez de tourner en boucle sur quelques violences. Il n'y a pas eu de mort. Les Black Blocs ne s'attaquent pas aux manifestants, ok ? Bon. il y a la majorité des gilets jaunes étaient dans la manif climat, Sophie pacifique, engagée pacifique. Donc maintenant, on remet les choses dans l'ordre, en place.
Calme le jeu.
Il y a une fracture. Il y a une fracture politique qui est réelle. Les gens ne veulent plus de ce système politique.
Les gens ne veulent plus de ce système politique. Alors, au-delà des excès, parce que pas dire que Fouquet cramé, tout ça, c'est rien. Faut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Pas dire Macron en prison. Enfin, c'est son problème. Mais au-delà des excès, il faut quand même mesurer la chose et, encore une fois, garder l'objectif principal. S'il y a eu, depuis 4 mois, les gilets jaunes, d'abord sur les ronds-points, ensuite dans les villes, c'est qu'il y a une situation extrêmement extrêmement préoccupante en France. Et il faut arrêter de dire, ce n'est pas par les grands débats qu'on va résoudre. C'est justement, au lieu de faire des grands débats, que ce gouvernement, depuis 4 mois, aurait dû déjà agir, dire des choses, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas en stage, on n'est pas en train d'écouter les problèmes, on les connaît, ils les connaissent aussi bien que moi, même beaucoup mieux que moi. Alors, agissez, faites des choses, et dites-vous bien que il y a une certaine partie de la France qui n'est pas dans les rues, qui n'est pas sur les ronds-points, qui est chez elle, mais qui souffre et qui n'est pas bien. Et alors là, il faut y répondre.
0-826-300-300, vous l'avez entendu, André Bercoff est dans tous ses états. On est ensemble jusqu'à 13h sur Sud Radio. Alors, est-ce que vous avez été choqué par ces images de violence sur les Champs-Élysées de ce samedi? Ou est-ce que vous pensez qu'on en a trop parlé, que ce n'était pas représentatif du mouvement des Gilets jaunes? Vous nous appelez, quelle que soit votre opinion, pour nous dire ce que vous en pensez.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Lanceur d'alerte.
Les lapins se meurent dans les champs pollués.
Oui, Johnny Hallyday. Pollué, pollué. Une très belle chanson, d'ailleurs assez peu connue de Johnny Hallyday. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui? Encore une fois, vous savez que hier, c'était aussi hier. Samedi, la marche sur le climat. Il y a eu de 30 000 personnes dans Paris simplement et un peu partout, des adultes et des enfants qui ont circulé, la terre, il faut se battre pour la terre, etc., etc. Enfin, tout le grande marche sur le climat qui passait un peu juste après, et presque en même temps que celle des Gilets jaunes, et qui a réuni extrêmement de vraiment nombreuses personnes, très pacifiques. D'ailleurs, là, il n'y a pas eu de problème, puisque c'était sur la préservation de la terre, le réchauffement climatique, etc., etc., etc. Beaucoup de choses à dire sur le fond. On ne va pas en discuter ici. Berkoff, dans tous les états, on va encore beaucoup, beaucoup parler, parce qu'il y a beaucoup de malentendus et beaucoup, je ne dirais pas, de fake news et beaucoup d'amalgames complètement faux sur climat, CO2, particules fines, etc. On mélange tout et le contraire. Et attention, je le répète, attention aux lobbies qui font avancer aussi leur cause, qui n'a rien d'écologique et qui a beaucoup de choses, qui est beaucoup d'économique. Mais quand même, vendredi dernier, eh bien, c'est quand même étonnant. L'Assemblée nationale revient sur une avancée majeure de la loi agriculture-alimentation qui avait été obtenue par la Fondation Nicolas Hulot, du temps de Nicolas. L'interdiction de la production, de la circulation et du stockage de pesticides, qui sont effectivement interdits. Bien. Eh bien, ça devait être effectivement dans 2 ans. Eh bien, dans un contexte écologique particulièrement critique, il y a eu un report voté la nuit. Alors, je vais vous dire, ils sont, je rappelle, 577 députés. Hein. Je rappelle que nous avons élu nos représentants, 577. Eh bien, on a voté par 27 voix contre 3. Eh oui, 27 voix contre 3, voilà. Et 7 abstentions, c'est intéressant. Donc, si je sais encore calculer, je crois, ils étaient 37, voilà, sur 577, voilà. Donc, ce n'est plus en 2022, ce sera en 2025, et attention, et plus si affinité, on verra bien ce qui se passe en 2025. Et alors, ce qui est quand même extraordinaire dans cette histoire, c'est que même Barbara Pompili, ex-secrétaire d'État à la biodiversité et députée La République en marche, s'est abstenue. Bon, c'est déjà ça. Et elle dit oui, elle s'est insurgée contre le chantage à l'emploi de certaines entreprises cyniques. Et voilà, c'est un choc, dit un autre député, entre les questions environnementales et les questions économiques. Voilà, donc, vous voyez le tableau, c'est magnifique. Des dizaines de milliers de personnes, voire des centaines de milliers manifestent. Oui, le climat. Oui, non à la pollution. On veut vivre. D'ailleurs, il ne faut pas opposer la fin du monde à la fin de mois. Allusion aux gilets jaunes. Les deux marchent de concert, etc. Oui, mais ce qui marche encore mieux, c'est que le soir, effectivement, l'Assemblée nationale recule effectivement si vous voulez, la date d'interdiction des pesticides de 3 ans. Et voilà encore ces extraordinaires dysfonctionnements de cette société française entre ses pouvoirs, entre les citoyens, etc. Voilà, les uns défilent, les autres reculent.
Formidable. 0-826-300-300. Vous continuez à nous appeler. André Berkov vous attend. Il est dans tous ses états jusqu'à 13h sur Sud Radio. Vous continuez à nous appeler soit pour réagir au recul de cette interdiction du pesticide, soit pour réagir aussi aux images de violence qu'on a vues en marge du mouvement des Gilets jaunes samedi dernier. D'ailleurs, dans quelques instants, on accueillera Carole qui nous appelle de Narbonne. A tout de suite sur Sud Radio.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Et moi, je n'aime pas l'incroyable gaspillage des eaux de Paris à 30 millions d'euros. Je n'aime pas que l'on supprime l'indexation de la retraite sur l'inflation et qu'on la rétablisse maintenant parce qu'on constate qu'on a, excusez-moi le mot, déconné. Et je n'aime pas du tout ce qui se passe à l'hôpital en ce moment et on va en parler.
Mais d'abord, 0-826-300-300. C'est avec vous qu'on parle vrai sur Sud Radio. Tout de suite, on accueille Carole qui nous appelle de Narbonne.
Bonjour Carole.
Bonjour Monsieur Berkoff et encore merci pour nous donner la parole. Donc je suis Gilet Jaune.
Oui.
Et donc je tenais à rappeler... D'où est parti le mouvement?
Oui.
C'était un ras-le-bol de taxation. Mmh. Il y a toujours ces mêmes revendications derrière. Le gouvernement ne peut pas faire semblant de ne pas l'entendre. Mmh. Il n'y aurait pas les drames que nous avons vus samedi, encore, s'il y avait eu, de la part du gouvernement, une action efficace, et je ne parle pas dans la répression.
Oui, une fonction efficace, c'est-à-dire écouter vos revendications et de voir ce qu'on peut faire, c'est ça.
Voilà, oui. C'est-à-dire que, par exemple, sur le RIC...
Référendum d'initiative citoyenne, voilà. Oui.
Si on avait eu ce moyen, qu'on nous donne le droit d'exprimer quand même ce que nous avons besoin et ce que le peuple français a besoin, c'est derrière les votes que ça sera exprimé. Donc c'est tout un chacun qui va s'exprimer.
Absolument.
Et ça, c'est une vraie démocratie. Mmh. Par contre, nous avons eu la prime pour l'emploi.
Oui.
Et on a eu les heures supplémentaires détaxées. C'est très bien.
Mmh. Oui, vous avez eu ça.
On a eu ça très bien. Oui. Voilà, oui. On a eu ça. Mais derrière tout ça, il n'y a rien qui a été fait. Mmh. Regardez l'aéroport de Paris. Je suis désolée, c'est inacceptable. Qu'on vote à l'Assemblée nationale, ils étaient 73 présents.
Oui.
La privatisation, ils sont 577 à être payés.
Ben, c'est comme ce qui s'est passé pour les pesticides. Là, on a reculé de 3 ans. Enfin, la même chose. Ils sont 27. Ils sont 27 à avoir voté. Enfin, 30 à avoir voté. Ouais. Non, mais vous avez raison. Oui, allez-y, Carole.
C'est une région particulièrement touchée par ces pesticides.
Oui.
Puisqu'il y a beaucoup de vignes autour de chez nous.
Oui.
Et le Roundup, entre autres, le glyphosate, donc, est régulièrement utilisé. Nos nappes phréatiques, je suppose, sont contaminées au possible.
Donc
et
pour...
là, on prend du recul et on se donne encore du temps pour se dire on va voir plus tard.
Mais
qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants?
C'est bien le problème, en tout cas Carole, c'est tout le problème de savoir ce qu'on fait, et c'est très bien les déclarations, mais ce qu'on fait. Merci en tout cas d'avoir été avec nous.
Oui, merci Carole de nous avoir appelé depuis Narbonne au 0-826-300-300. Vous tous qui écoutez Sud Radio et Berkov dans tous ces états, c'est le même numéro, on vous attend.
Sud Radio, André Berkov.
Ça balance pas mal.
Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal.
Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent.
Magnifique chanson de Guy Béard, on se rappelle aussi L'eau vive, le film. Magnifique et très beau, mais l'eau vive on aime hein, quand elle est fraîche, quand elle est naturelle, quand elle est belle. Mais quand il se passe ce qui se passe, notamment à la régie publique eau de Paris, et c'est assez hallucinant, Marianne a levé, dans une enquête, l'hebdomadaire Marianne a levé la chose, et c'est quand même extraordinaire. les piles des 14 000 compteurs d'eau en question, les compteurs d'eau, eh bien, ce sont des compteurs d'eau jetables, effectivement. C'est-à-dire que Veolia et Suez ont refilé à la Régie publique des eaux de Paris des compteurs d'eau à la durée très limitée. Ils ont pris la direction de la poubelle parce qu'ils sont équipés de piles non remplaçables, vous m'entendez ? Ils ont acheté 94 000 compteurs généraux d'eau pour Paris. Je ne sais pas si ça se passe dans les grandes villes, mais il faudrait vérifier et vérifier. Eh bien voilà, ça coûte 30 millions d'euros. C'est quand même formidable, après Autolib, après Vélib et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe ? On a des gestionnaires à la mairie de Paris ou on a des amateurs ? C'est formidable, quoi. Ils ont enquêté et ils ont vu, effectivement, voilà, c'est des compteurs d'eau jetable. Ils ont commencé à dire « fausse information ». Pas du tout, pas du tout. C'est une vraie information. Ce sont des piles à durée très limitée, et quand même, c'est extraordinaire, vous imaginez ? C'est-à-dire que la ville de Paris est contrainte de renouveler ses 94 000 compteurs d'eau. Ah, c'est beau le business, c'est beau la gestion, c'est beau les gens qui gèrent les villes comme des entreprises, les gens qui ont cette expérience, qui sont tous mieux que l'importance. Il y a déjà 6 milliards d'euros de dette, la ville de Paris, ça ne fera que 30 millions d'euros de plus. Mais alors, qu'importe la dette, pourvu qu'on ait l'ivresse. L'ivresse de quoi ? C'est vraiment le problème.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
C'est grand gaga, la retraite. C'est con, ça te rend grognon, la retraite.
La retraite, c'est con, mais c'est surtout quand même très coûteux, hein. La retraite, hein, vous avez vu ce qui s'est passé depuis le mouvement des Gilets jaunes, beaucoup de retraités qui ne descendaient jamais dans la rue, ils ont peuplé les ronds-points et autres. Pourquoi ? Parce qu'on avait désindexé les retraites sur l'inflation. L'inflation était de temps, les retraites restaient les mêmes, le pouvoir d'achat, évidemment, c'est un calcul simple, descendait. Alors, et le pouvoir d'achat baissait, etc. Alors, ils se sont dit, non, ça ne va pas du tout. Alors, après le grand débat, on s'est dit, voilà, on va mettre fin à la sous-indexation des retraites pour revenir à l'inflation. Bon, c'est bien, c'est une des choses très positives des grands débats, voilà. Eh bien, on va économiser, effectivement. Vous rappelez que c'était parti aussi de là, chez les retraités, quoi. C'est-à-dire que l'inflation, aujourd'hui, est à 1,8%, est en 2018. Eh bien, on avait décidé de limiter à 0,3% la revalorisation des pensions. Vous voyez, 0,3% de revalorisation, inflation 1,8%. Évidemment, les gens l'avaient très mauvaise. Alors, il paraît qu'on va revenir là-dessus. Mais une fois de plus, je ne veux pas aller plus loin, est-ce qu'on n'est pas foutu chez les princes qui nous gouvernent, quels qu'ils soient, de quelque couleur ou étiquette qu'ils soient, de réfléchir avant de prendre des mesures et de savoir où il faut économiser ? Est-ce qu'ils ne sont pas fichus de penser un tout petit peu ? C'est une activité intéressante, penser, hein, réfléchir à moyen terme et pas penser à la semaine prochaine. Ce serait bien.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré au coude, que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné.
Isabelle Adjani, au fond de la piscine, effectivement, très le pull marine, très 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 jolie chanson. Eh bien, il y a eu une bonne chose, c'est un bravo. Une piscine dans un centre aquatique de Fort-Mahon, en Somme, département de la Somme. Ils avaient autorisé le port du burkini. Et ils disent, voilà, effectivement, il n'y a pas de raison, c'est de la discrimination, il n'y a pas de raison. Et puis, ils ont réfléchi un tout petit peu, et ils ont dit, mais ce n'est pas de la discrimination. Ils ont dit, écoutez, c'est très simple, nous accueillons tout type de public. D'autres demandes ont été refusées, comme l'utilisation de combinaisons plongées, de venir surveiller des enfants habillés au bord du bassin, les shorts de bain pour hommes, c'est interdit. Il est précisé au règlement que toute tenue habillée est refusée, et pas précisément un burkini. C'est une question d'hygiène. Et oui, il faut arrêter de raconter n'importe quoi au nom de la discrimination, du racisme, etc. Et autres choses qu'on jette comme ça, alors qu'on sait très bien que c'est pas ça le problème. Eh bien, ils avaient été le défenseur des droits, l'ineffable Jacques Toubon avait dit « oui, c'est la discrimination fondée sur la religion ». Eh bien, qu'est-ce qu'ils avaient poussé ? Ils avaient modifié le règlement de l'Aquaclub. Et là, Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, il a dit « non, ça ne va pas, c'est une atteinte à la laïcité ». Et il a raison, Xavier Bertrand, c'est une atteinte à la laïcité. Donc, ils sont revenus sur la décision et j'espère que toutes les autres piscines, centres aquatiques feront le même pour tout manquement à l'hygiène, quel qu'il soit. Ça n'a rien à faire avec la religion, ça a à faire avec l'hygiène. Et l'hygiène, c'est quand même dans une piscine, dans un point d'eau, dans un plan d'eau, c'est fondamental.
Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Dans quelques instants, André Berkoff va quitter son burkini pour mettre sa blouse d'infirmier ou d'infirmière, puisqu'on va parler de la situation de l'hôpital en France avec l'invité d'André Berkoff, Michel Tsimaratos. Il est chef de service de pédiatrie à l'hôpital de la Timone à Marseille et il nous présente son livre « Repenser l'hôpital, rendez-vous manqué et raison d'espérer ». C'est publié chez Michalon. A tout de suite sur Sud Radio.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
À présent, il est temps de parler des Français qui soignent les Français. Qui n'est pas une fois dans sa vie allé dans un hôpital ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Rendez-vous manqué et raison d'espérer.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face.
Et tout de suite, André Berkoff, on accueille votre invité, le professeur Michel Tsimaratos, chef de service de pédiatrie multidisciplinaire à l'hôpital de la Timone à Marseille et auteur de ce livre « Repenser l'hôpital, rendez-vous manqué et raison d'espérer ». C'est publié chez Michalon.
Alors, professeur Tsimaratos, bonjour.
Bonjour.
Vous avez édité ce livre très complet, je dois dire passionnant pour qui s'intéresse à l'hôpital et qui ne s'intéresse pas à l'hôpital, car qui n'a pas été, vous savez, c'était tout le monde était ou sera gaulliste, tout le monde a été et ou sera à l'hôpital à un moment donné de sa vie. Et donc, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Vous avez travaillé avec Bénédicte Victor, qui est économiste de la santé, avec Stéphanie Gentil. Et au fond, quand on lit votre livre, qui est une somme, parce que vous racontez l'histoire de l'hôpital, où on en est aujourd'hui, et mon analyse de lecture, c'est que, certes, il y a des raisons d'espérer, mais les rendez-vous manqués ont été nombreux quand même.
Oui, c'est vrai, il y a des rendez-vous manqués, mais aussi des raisons d'espérer. Quand on regarde les raisons qui nous ont poussés à écrire ce livre, c'est d'abord pour témoigner et pour contribuer à une réflexion qui est en cours maintenant depuis de nombreuses années. On entend et on sent, quand on travaille à l'hôpital, un certain malaise ou en tout cas une certaine souffrance des gens qui bossent.
Ouais. Du personnel, des
infirmières, des aides-soignantes, des brancardiers, de tous ceux qui sont dans le système hospitalier. Et puis, il y a un paradoxe incroyable, c'est qu'il y a un attrait de la filière santé pour les jeunes. Quand on regarde le nombre d'étudiants qui veulent faire médecine ou qui veulent rentrer dans la filière santé, pharmacie, dentaire, kiné, etc. Et une fois qu'ils sont dedans, en quelques années, il y a une bascule qui se fait avec un sentiment de souffrance au travail.
Ouais.
Et on s'est posé la question de comment on fait l'analyse de ça et comment on arrive avec une analyse un petit peu scientifique ou médicale, en tout cas comparée à celle qu'on fait dans nos pratiques quotidiennes, à avoir un diagnostic. Et une fois qu'on a un diagnostic, à essayer de trouver les éléments qui peuvent nous permettre de changer les choses, de changer ce modèle qui génère...
Alors, c'est grave, docteur. Parlons du diagnostic. En quelques mots, bien sûr, on pourra en parler pendant des heures. Mais diagnostic aujourd'hui, c'est quoi ? Quels sont les points d'achoppement principaux pour l'hôpital ?
De notre point de vue... Et après,
surtout que vous êtes praticien, vous. Non,
ouais. C'est le travail, c'est les regards croisés de trois personnes qui sont au contact avec les patients, réalité. Et de notre point de vue, on a perdu un peu le sens et la vocation dans les réflexions qui guident vers l'amélioration. Mmh. Donc, il y a à l'hôpital une crise de sens. Mais l'hôpital reste...
On ne sait plus pourquoi on est là, quand même pas, non ?
Si, on sait pourquoi on est là.
Oui.
Mais les indicateurs qu'on nous demande de suivre ne correspondent pas avec cette vocation.
Alors, soyons précis, par exemple.
Alors, par exemple, vous avez probablement lu qu'on donne une rallonge pour les hôpitaux de 300 millions d'euros il y a quelques jours pour dire on va diminuer le déficit des hôpitaux. Ce qui est une très bonne chose. Parce que si les hôpitaux sont en déficit, c'est que la masse d'argent qui est mobilisée pour soigner est supérieure aux revenus des hôpitaux qui sont rémunérés pour leur activité.
Bien sûr.
On gagne ce qu'on produit. un peu comme une entreprise.
Oui, ça c'est le côté, pas privatisation, mais enfin gestion, rentabilité, etc.
Oui, en tout cas, c'est le côté gestion.
D'accord.
Mais ce qui est important, ce n'est pas tellement de savoir est-ce qu'on donne ou est-ce qu'on ne donne pas, comme une subvention, mais c'est à quoi va servir cette subvention.
Bien sûr.
Est-ce que cette subvention va être orientée vers des éléments de qualité, d'amélioration de la qualité des soins ? Est-ce que cette subvention va être orientée vers des éléments de soutien à la recherche médicale ? Mmh. Est-ce que cette subvention va être donnée aux hôpitaux en leur disant « Ok, ben nous, on vous aide à diminuer votre déficit. »
Ah ouais.
Ben, si on ne dit pas ce qu'on veut faire...
Mais qui décide de ça ? C'est intéressant, professeur. Qui décide, voilà, on va vous donner une subvention. Est-ce que c'est l'État, c'est le subventionneur, comment on dit, qui dit oui, mais vous, vous devez diminuer vos dettes parce que sinon, ça ne va pas. Le reste, bon, très bien, débrouillez-vous.
C'est
qui
un échange. C'est un échange permanent entre l'État,
les
responsables, les agences régionales de santé et les hôpitaux qui décident d'affecter cette subvention, cette somme d'argent au point... qu'ils considèrent les plus difficiles à atteindre, chacun dans son hôpital, dans sa région, etc. L'État peut dire, moi, je préfère donner la prime à la qualité, au remboursement des emprunts, à la trésorerie.
Mais ce n'est pas lui qui choisit. Ce n'est pas lui qui décide.
Pas toujours.
Pas toujours. Les ARS ne sont pas quand même très dépendantes.
Bien sûr, les ARS sont le bras armé de l'État, de la Direction Générale de l'Organisation de la Santé.
Alors moi, la question que je voudrais vous poser, parce que c'est dans votre livre et dans le creux, c'est que vous, praticiens, je parle des médecins, les soignants, etc., et les ARS, je ne veux pas dire que ce sont des bureaucrates, etc., mais est-ce qu'il n'y a pas un déphasage entre vous, ce que vous voyez, et vos priorités, et vous, vous êtes sur le terrain, et entre, je dirais, gouvernement et ARS, qui sont peut-être plus préoccupés par d'autres choses?
Je ne sais pas si on peut parler de déphasage. En tout cas, il y a une différence entre avoir envie de faire quelque chose et réaliser cette chose. Mmh. C'est-à-dire, avoir envie d'aider les hôpitaux en leur donnant de l'argent, c'est sûrement une bonne idée. Mmh. Avoir envie d'agir sur les mécanismes, qui sont des mécanismes qui entretiennent la souffrance au travail ou le déficit, en fonction de ce qu'on veut faire, c'est un autre travail.
Absolument.
C'est un travail qui nécessite de s'appuyer de nouveau sur les acteurs de première ligne pour comprendre ce qui se passe au niveau des acteurs de première ligne et qui génère de la difficulté. Parfois, cette difficulté peut être coûteuse pour la société.
Mais enfin, elle est indispensable.
Oui, mais elle peut être coûteuse pour la société, mais bénéficier aux hôpitaux.
Je comprends. D'accord.
Si vous avez, imaginons, un service hospitalier où l'absentéisme est important, pour diverses raisons. Mm-hmm. Les infirmières ont plus de travail, et les aides-soignantes, pour s'occuper des patients. Imaginons qu'un patient, le jour de son départ, ait un effet indésirable.
Mm-hmm. Soit obligé de rester.
Et soit obligé de rester. Son niveau de cotation peut changer. L'hôpital peut gagner plus d'argent. Alors que ça coûte à la société.
Oui, je comprends. C'est toujours la balance. Ouais.
Si on fait un deuxième séjour hospitalier, ça va être du revenu pour l'hôpital, ça va être du coût pour la sécurité sociale.
Bien sûr.
Les destins des hôpitaux et de la sécurité sociale ne sont pas liés par les mêmes indicateurs.
Absolument. Et je crois que c'est très, très important de le souligner. Mais alors justement, est-ce que ça induit, vous avez parlé, je vous ai mis sur autre chose, mais la perte de sens? Est-ce que c'est lié ? Est-ce qu'il n'y a pas, là, non pas l'origine, mais une des dimensions de la perte de sens que vous évoquiez ?
Ce serait présomptueux de dire que c'est l'origine. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est sûrement une piste d'amélioration. La perte de sens, elle vient de la tentation qu'on a de se focaliser sur des indicateurs qui sont reproductibles pour tout le monde, par exemple le coût, et de dire qu'il faut agir sur le coût. D'accord. Si on change les indicateurs... Si on prend un indicateur de qualité des soins, par exemple, ça peut changer le sens qu'on donne à notre action. Si on prend un exemple de la vie courante, on fait tous attention, quand on prend notre voiture, de ne pas tomber en panne d'essence. Mais si on roule en ne regardant que la jauge à essence, on ne peut pas être sûr qu'on va arriver à l'endroit où on veut aller, même si on ne tombe pas en panne. Il faut arriver à faire coexister des indicateurs de qualité des soins. Et pour ça, il faut intégrer la qualité comme objectif principal des hôpitaux. C'est ça notre
credo. Ce qu'elle n'est pas actuellement.
Ce qu'elle n'est pas actuellement, la qualité est considérée comme une fonction support.
D'accord.
Qu'est-ce que vous, au même titre que l'informatique ou que la finance, etc. Or, on fait des restructurations hospitalières. Dans toutes les régions, il y a des restructurations hospitalières. Et c'est très rare qu'on n'entende pas une partie des soignants dire « c'est pas bon pour nous ».
Ouais.
Mettre la qualité au premier plan de la préoccupation, c'est de se dire pourquoi ça sera mieux après. Peut-être que ce sera mieux parce que ça coûtera moins cher.
Mais peut-être que ça sera mieux parce que les soins seront différents.
Mais peut-être que ça sera mieux parce que les gens iront mieux.
Ben oui, quand même.
Si les gens vont mieux et qu'ils sont moins hospitalisés, ils sont plus au boulot.
C'est sûr. Et ça rapporte autrement à la société.
Et ça rapporte autrement. La santé, vous savez, c'est un élément transversal de la société. Quel que soit votre métier,
bien sûr.
Pour bien le faire, vous devez être en bonne santé. Et donc, de considérer la santé et dans la santé les hôpitaux comme un silo qu'il faudrait assainir sur le plan financier sans tenir compte des impacts qu'il va y avoir à côté, bah, c'est forcément voué à l'échec parce qu'on peut assainir le silo, mais générer des coûts à côté, des coûts induits. Et ces coûts induits, si on ne les prend pas en compte dans notre prospective, bah, ça va faire que finalement, le silo de la santé, avec en particulier l'hôpital, va coûter bien plus cher à la société.
Oui, puisque les gens seront plus affectés, plus malades et plus...
Enfin, absolument.
C'est l'effet, évidemment, de ruissellement au mauvais sens du terme. Mais aujourd'hui, alors, si on faisait un bilan, que vous le faites dans votre livre, mais je voudrais qu'on le fasse pour les auditeurs de Sud Radio... Aujourd'hui, on est quand même, est-ce qu'on peut dire ça sans faire de progrès, est-ce qu'on est quand même plus dans une logique comptable que dans une logique effectivement de santé? On sait très bien qu'il y a des domaines où il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Il faut laisser crever les gens, ou en tout cas pas bien, ou il faut les soigner le mieux possible. Or, le système français a toujours été considéré comme l'un des meilleurs systèmes de santé du monde. Hein. On l'a beaucoup dit, on s'en a organisé. Est-ce que c'est toujours le cas?
Je crois que le système de santé français est un très très bon système. C'est un système dont l'organisation des soins et les ressources sont considérables. Il y a énormément d'argent dans la filière santé. C'est un système qui permet de soigner de façon... sans tenir compte de l'origine sociale ou de la richesse des gens. C'est un système qui permet de l'accès à la recherche et aux protocoles de recherche, même si c'est difficile en ce moment de faire de la recherche en santé. Mais on a l'accès. Si vous souffrez d'une maladie difficile, c'est facile d'aller jusqu'à un endroit proche de chez vous
où il y aura la possibilité.
On peut avoir l'accès à des soins de très grande qualité. D'accord. Et ça repose essentiellement sur les acteurs, bien plus que sur les bâtiments ou sur les investissements. Un hôpital, ce n'est pas un bâtiment avec des scanners et des blocs à l'intérieur. C'est la convergence de ressources humaines avec une valeur ajoutée tellement forte qu'on arrive à animer un bloc opératoire ou un scanner de pointe.
Et c'est vrai que c'est tellement important, là je parle en tant que consommateur, j'ai eu affaire récemment à l'hôpital, c'est tellement extraordinaire de voir des gens dévoués qui sont là, qui travaillent, vraiment. Quand on est en situation de fragilité et qui ne l'a pas été, on voit ce qui se passe et on est plus que reconnaissant. Quoi.
C'est la principale raison d'espérer. Les ressources sont de très grande qualité, le système est bien pensé, l'organisation territoriale existe, bien sûr, elle n'est pas parfaite, mais c'est notre travail de la rendre parfaite. C'est notre travail d'arriver à informer suffisamment les hommes et les femmes politiques de ce pays pour que les décisions qui seront prises aboutissent à quelque chose de mieux sur le plan qualitatif. Bien sûr, ça ne doit pas toujours coûter plus cher. Mais si l'argent est bien utilisé, on peut aller vers mieux et que ça coûte moins cher à la collectivité.
Et alors, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas quand même... Que dites-vous en ce qui vous concerne, vous pensez là, est-ce que vous êtes pour une étatisation progressive de la santé ou pas?
Non, je ne suis pas pour une étatisation progressive de la santé, mais je suis pour qu'on regarde les choses de façon franche et directe et que l'on regarde la réalité telle qu'elle est. Aujourd'hui, il y a plusieurs secteurs qu'on appelle médecine libérale et médecine publique, les deux sont financés par la sécurité sociale.
Absolument.
Et la sécurité sociale, c'est la solidarité. C'est à l'origine, on essaye de l'expliquer dans le livre, ceux qui travaillent financent un système qui permet à ceux qui ne travaillent pas de bénéficier de soins.
Parfait.
Aujourd'hui, une part importante du financement de la sécurité sociale repose non plus uniquement sur la solidarité, mais sur l'impôt, qui est une autre forme de solidarité.
Bien sûr. Bon.
Donc ça veut dire que parler d'une médecine étatique au sens où c'est l'État qui décide où vous allez vous faire soigner, non, je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Je pense qu'il faut faire confiance aux acteurs. Je pense qu'il faut diminuer le millefeuille réglementaire. Vous parliez tout à l'heure des ARS.
Oui.
Bien sûr, les ARS, si elles sont là pour faciliter, ben c'est des partenaires indispensables.
Mais il y a une tentation bureaucratique quand même.
Mais bien sûr. En France, on a une tentation bureaucratique.
Permanente.
On accorde plus d'importance au contrôle qu'à l'action.
Et ça me paraît fondamental. Et l'action est plus importante, ou le contrôle, bien sûr, il faut du contrôle. Mais enfin, les acteurs, ce qui compte, c'est ceux qui sont à l'hôpital, enfin, ceux qui travaillent dans le quotidien et ailleurs, enfin, les chirurgiens, etc. Mais pour vous, donc, les raisons d'espérer, en tout cas, existent, c'est clair.
Bien sûr, on a un système qui est incroyablement bien ficelé, avec une ressource financière qui est inépuisable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvais payeur.
Oui. Ça, oui. Ben, ce qui est quand même pas mal.
C'est quand même pas mal, parce qu'il y a beaucoup d'endroits et beaucoup de pays où on pourrait dire si vous payez, vous avez accès aux soins.
Exact.
En France, c'est pas le cas.
Ça a été le cas des États-Unis, c'est le cas des États-Unis, aux États-Unis, par exemple, et ailleurs. En tout cas, c'est un livre passionnant, c'est un livre qui donne vraiment aux gens qui, justement, aux ceux qui ne sont pas à l'hôpital, qui pourraient y être, qui y ont été, ce que c'est que cette institution, et on la comprend mieux quand on le lit. Et c'est un livre qui m'a tout à fait passionné.
Merci à vous, en tout cas, Michel Timaratos. Je rappelle que vous êtes chef de service de pédiatrie multidisciplinaire à l'hôpital de la Timone à Marseille. Je rappelle la référence du livre dont vous êtes le co-auteur, « Repenser l'hôpital, rendez-vous manqué et raison d'espérer ». C'est publié chez Michelon. Merci à vous.
Merci de votre
accueil. André Berkoff également. On vous retrouve demain à midi dans tous vos états en direct sur Sud Radio. On pourrait écouter cette émission en podcast sur sudradio.fr. On peut aussi revoir la vidéo de cette émission justement sur le Facebook Live de Sud Radio. À suivre, Les Clés d'une Vie avec Jacques Pessis. Jacques Pessis qui aujourd'hui reçoit le père de la Morandais. Excellente journée à vous sur Sud Radio.